Hier, ensuite, on va regarder le dernier mystère vraiment qu'on a regardé dans tous les mystères. C'est le 14e mystère, c'est le dernier des deux mystères diaboliques. Avant ça, on avait vu des autres mystères doctrinaux, des mystères dispensationnels, dévotionnels. Puis maintenant, on a les deux mystères diaboliques. Et on avait celui de mystère de l'iniquité qu'on a regardé dans 2 Thessaloniciens 2. Puis ce soir, on va regarder le mystère de la grande Babylone dans Apocalypse, les chapitres 17 et 18. Ça fait qu'avant de commencer, peut-être on va demander au Seigneur de nous aider dans sa parole. Seigneur notre Dieu, on vient devant toi ce soir avec, on s'attend de comprendre des choses, notre Dieu, de ta parole. On s'attend de recevoir de toi des révélations, Seigneur, qui vont nous aider dans notre marche chrétienne, qui vont nous aider à persévérer. Et surtout dans ces derniers jours qu'on passe maintenant ici sur la terre, on sait, Seigneur, qu'il y a une grande confusion dans le monde dans lequel on vit. Et même parfois, Seigneur, tristement, dans le monde évangélique, dans le monde chrétien, on te prie, Seigneur, de nous éclairer par ta parole. On te prie, Seigneur, de nous montrer ta voie. Puis qu'on puisse garder nos yeux tournés vers toi, Seigneur, qu'on puisse avoir les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, celui qui vient bientôt, celui qui nous a fait la promesse, celui qui, au son de la trompette de Dieu, va descendre sur la nuée, Seigneur, et il va nous appeler pour être avec lui toujours dans sa présence. On te remercie, Seigneur, parce qu'en ce moment-là, tu vas nous transformer complètement afin qu'on puisse revêtir notre domicile céleste, Seigneur, et être dans ta présence pour toujours. On te remercie et donne-nous de persévérer jusqu'au bout en l'attendant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on va commencer dans la lecture dans l'Apocalypse au chapitre 17 et au verset 1, on y lit: Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. C'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit: Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant: elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons et un repaire de tout esprit impur. un repaire de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de peur avec à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres, dans la coupe où elle a versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuils. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consommée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugée, et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement, s'étant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venue ton jugement. On s'arrêtait là pour la lecture de la parole, mais ça continue encore dans le chapitre 18. Donc, on voit ici le mystère de la grande Babylone qui est détruite à la fin par le Seigneur. Puis, vous savez, on dit que l'homme, quelqu'un a dit que l'homme est une bête religieuse. Donc, on voit que même dans les tribus éloignées, là, l'homme est toujours religieux. Puis même n'importe quel homme a toujours dans sa pensée que si c'est une religion organisée par les hommes ou même si c'est une religion qu'il se fait lui-même. Hein, quand on prêche l'évangile à quelqu'un, ils disent tout le temps, ben moi, là, selon moi, là, tu ne fais pas de mal à personne, tu fais ton du bien. Donc, toutes leurs caractéristiques, c'est un peu comme une forme de religion. Mais pourquoi que l'homme a toujours cette pensée-là? Même on pense quand on pense à des extraterrestres, par exemple, on est toujours à penser qu'il faut se défendre parce que qu'est-ce qui vient de l'au-delà ne peut pas être bien. Parce que c'est vraiment une attaque pour nous autres. Pourquoi? C'est à cause de la conscience que Dieu nous a donnée. Parce qu'on sait dans le fort intérieur de notre conscience qu'on est des pécheurs. On sait qu'on mérite un jugement. Puis c'est ce qu'on s'attend en premier. Vous savez, quand on parle des extraterrestres, il faut toujours se protéger contre eux autres. Il faut toujours se défendre contre eux autres. Qu'est-ce qui est inconnu, c'est quelque chose qu'on doit se défendre. Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme une pensée d'éternité. Il lui a donné une conscience. Puis la conscience, on sait que Adam et Ève, aussitôt qu'ils ont désobéi à Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés parce qu'ils savaient qu'ils étaient pécheurs devant Dieu. Il y avait la conscience maintenant du bien et du mal. Mais dans Ecclésias, chapitre 3, verset 11, il dit, il a fait toutes choses belles en son temps, même. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc, dans toute l'humanité, on sait que c'est Dieu qui a créé toute l'humanité, que les gens y croient ou qui n'y croient pas, c'est que Dieu a créé toute l'humanité. Tous les hommes sur la terre ont été créés par Dieu. La création même, l'univers dans lequel on vit, a été créé par Dieu. Mais, ce qui arrive avec la conscience, si l'homme n'est pas éclairé par Dieu, ben, il marche dans les ténèbres. Puis on le voit dans les tribus éloignées, hein, ils vont rendre des cultes aux esprits mauvais. On voit toujours ce qui est mauvais. Ils marchent dans les ténèbres. Puis on voit ça du début de la création de l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, on voit tout de suite dans les deux lignées, on va aller dans Genèse, au chapitre 4. Et dans Genèse, au chapitre 4, on voit les deux lignées d'hommes. Que Dieu a créé ça, mais à un moment donné, on voit qu'il y a une division en deux lignées. On a la lignée d'Abel et on a la lignée de Caïn. Donc, au chapitre 4 de la Genèse, les versets 3 et 4, on voit ici, les versets 3 et 4, il dit, au bout de quelque temps, peut-être on peut lire à partir du verset 1 de chapitre 4, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Donc, on voit ici les deux lignées, Abel et Caïn, une lignée qui fait selon Dieu, puis il y a une autre lignée qui fait selon leur propre pensée. Donc, Dieu n'a pas regardé un regard favorable sur Caïn, sur son offrande, parce que c'était fait selon sa propre idée. Vous savez, le problème avec la religion de l'homme, c'est toujours que la religion de l'homme ignore le vrai problème dans sa relation avec Dieu. Puis le vrai problème dans sa relation avec Dieu, ben, c'est le péché, puis son besoin de repentance, de changer sa façon de penser envers le péché, de reconnaître que c'est une offense à Dieu, puis de vouloir s'en détourner pour plaire à Dieu et la rédemption. C'est ça qu'on voit, parce qu'on voit quand même aujourd'hui dans des émissions, des fois de religion, on parle de Dieu, on parle d'un témoignage, mais dans ces témoignages-là, si on écoute bien, il n'y a jamais de conscience, de prise de conscience de son péché. Il n'y a jamais de repentance, de s'être repenti de ce péché-là, ou que on ne parle pas de la rédemption, du moyen de rédemption de Dieu. Donc, on voit aussi que Caïn, il a tué Abel, mais Dieu a donné un autre, Seth, qui a remplacé Abel, qui lui a été tué par Caïn. Quand on continue de lire, on voit que l'humanité se divise en deux lignées ici, là. On a la lignée de Caïn dans le chapitre 4, au verset 8, et il nous dit, au chapitre Genèse 4, au verset 8, Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc, ça, c'est la lignée de Caïn. On va au verset 16, il dit, Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'Orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Énoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Énoch. Énoch engendra Irad, Irad engendra Mehujaël, Mehujaël engendra Métushaël, et Métushaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes, le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tila. Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Donc, on voit ici, c'est important de voir qu'au début, ici, dans la Genèse, on voit en embryon, tout le reste de la Bible. Ça commence là, mais ça se continue. Cette lignée-là de Caïn se continue à travers les âges jusqu'à la fin. Mais au verset 25-26, on voit maintenant dans le chapitre 4, au verset 25-26, il dit, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, dans ces deux lignées-là, on voit qu'il semble que la lignée de Caïn, c'était une lignée prospère. On voit beaucoup de choses qui apparaissent dans la lignée de Caïn. Dans la lignée de Seth, tout ce qu'on voit, c'est qu'il a enfanté un fils, puis ils ont commencé à invoquer l'Éternel. Donc, on voit tout de suite une démarcation, là, une division dans ces deux lignées-là. Dans la première lignée, qu'est-ce qu'on voit dans la lignée de Caïn? Bien, le meurtre, c'est sûr que Caïn était le premier meurtrier. Lémec aussi, son fils, lui, Caïn, il avait tué son frère Abel. Lémec a tué deux hommes. Et on voit que Caïn, après ça, s'est éloigné de l'Éternel. Donc, c'est pas approché, il s'est éloigné de l'Éternel. Il a construit une ville. Ensuite de ça, on voit la polygamie qui commence. C'est le mec qui prend deux femmes. Ensuite de ça, on voit le début de la civilisation. Hein, on voit de la prospérité. On voit de la culture qui vient Ensuite, la marchandise, puis la dépravation et le meurtre. Puis, ce qu'on pourrait dire alors, ici, dans ces lignées-là, on a d'un côté les fils des hommes. Donc, c'est la vie sans Dieu. Puis, de l'autre côté, du côté de Seth, on a le fils de Dieu, ou ceux qui sont en relation avec Dieu. C'est pour ça que quand on arrive dans le chapitre 6, au verset 2, il dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc, ici, je sais qu'il y en a qui disent que les fils de Dieu, ce seraient des anges qui ont eu des relations avec les femmes des hommes, mais les anges, on voit que les anges sont pas, c'est des êtres asexués, qui n'ont pas, ce n'est pas des êtres sexuels, mais donc ici, dans ces fils de Dieu-là, on voit qu'il y a la lignée de Seth, qui serait la lignée des fils de Dieu, tandis que les fils de l'homme, les fils des hommes, c'est les fils de la lignée de Caïn. Puis, il y a eu des mariages entre les deux, ce qui a donné des géants. On sait que dans la lignée de Caïn, il y avait quand même une prospérité, la culture, la marchandise, tout ça, mais entremêlé de meurtres, de polygamie, puis du mal. Donc, on voit. On revient au nom de Babylone. Le nom de Babylone est mentionné 260 fois dans l'Écriture. Donc, on le voit dans l'Apocalypse ici, là, mais il est mentionné 260 fois dans l'Écriture. Sous sa forme hébraïque, c'est Babel. Babel, sous sa forme grecque, c'est Babylone. Puis le mot voulait dire originairement la porte de Dieu, mais est devenu confusion, synonyme de confusion. On sait que c'est à Babel, quand on a voulu construire la tour de Babel, c'était une tour où qu'on pourrait atteindre les cieux, qu'on pourrait un peu comme résister aux cieux en regardant en arrière au déluge qui était venu, qu'il avait surmonté jusque les plus hautes montagnes. Eh bien, c'est un peu comme si on a dit maintenant, si Dieu juge, on va pouvoir résister au jugement de Dieu, on va monter jusqu'au ciel. C'est un peu comme on va aller atteindre le ciel, on va aller défier le ciel ici. C'est ça que ça voulait dire. Donc, c'est devenu là que Dieu a confondu le langage des hommes, puis c'est ça qu'on a appelé la tour de Babel. Mais dans l'Écriture, on voit que la Babylone, de trois façons, il y a trois aspects à la Babylone, parce qu'on en parle ici dans l'Apocalypse. Puis elle est tout au long de la Bible. Donc, dans l'Écriture, il y a trois façons de voir Babylone. Premièrement, il y a la Babylone historique, on va regarder. Puis il y a la Babylone prophétique. Puis il y a la Babylone mystique. Voilà, comme on voit ici dans l'Apocalypse, il nous parle du mystère de la grande Babylone. La Babylone historique, ben, commence après le déluge. On voit que c'est là qu'a commencé dans Genèse chapitre 10. On voit ici quand on va après le déluge. Le déluge est arrivé après le chapitre 6. Puis, dans le chapitre 10 de la Genèse, au verset 8 à 12, c'est là qu'on voit ici, il dit, Coche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, il régna d'abord sur Babel, Érech, Accad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Calash, et Rézène, entre Ninive et Calash, c'est la grande ville. Donc on voit ici, ça c'est la Babylone historique. Et elle provient d'un homme, qui était Nimrod, qui était un vaillant chasseur devant l'Éternel. Puis, au lieu d'être un fermier ou un berger, lui, il était un chasseur devant l'Éternel ou quelqu'un qui s'élevait contre l'Éternel. Puis, lui, il s'élève pour régner sur Babel. Puis, c'est là qu'est toute la source de l'idolâtrie, parce qu'on voit que dans le jugement de la Babylone, dans l'Apocalypse, que c'est une prostitution, il y a l'idolâtrie, mais toute l'idolâtrie a sa source en Nimrod. Puis lui, il se proclame être Dieu, on voit comme à la fin, l'homme de péché va se proclamer être Dieu. Lui, il se proclame Dieu, puis sa femme, Sémiramis, qui est appelée la reine des cieux, elle va enfanter un enfant Dieu. On commence à reconnaître ça dans la religion que nous autres on était, parce que la religion dans laquelle on était, la plupart d'entre nous autres, était fondée sur l'idolâtrie. L'idolâtrie a sa source à Babel ou dans Babylone. Alors, on voit toujours Babylone en lien avec l'idolâtrie. Donc, l'histoire, la question de la femme avec un enfant dans les bras, un enfant Dieu dans les bras, ben, ça ne commence pas avec Marie, ça commence dans Babylone, ça commence avec Nimrod. Puis ça va faire son chemin à travers les nations jusqu'à la fin, parce que là, on parle de quelque chose qui vient du début, là. Babylone, ça vient du début, puis ça continue à travers toute la Bible, puis on le voit à la fin dans l'Apocalypse. Donc, à travers toutes les nations. Puis c'est pour ça qu'on se demande, on va parler d'œcuménisme après ça, là, mais quand on parle d'œcuménisme, c'est quoi qui pourrait relier les religions ensemble? À première vue, il semble que ces religions-là ne pourraient jamais se relier ensemble, mais ça leur prend un dénominateur commun. Puis le dénominateur commun, c'est l'idolâtrie. Parce que les religions de l'homme, on a vu la lignée de Caïn, c'est l'homme qui ne cherche pas Dieu, c'est l'homme qui fait son affaire sans Dieu. Puis on est toujours porté à l'idolâtrie parce qu'comme on a dit, l'homme est une bête religieuse, donc on veut se faire une religion. Et cette religion-là, qui n'est pas basée sur le Dieu d'éternité, le Dieu créateur, mais nécessairement, c'est de l'idolâtrie. Donc on retrouve dans la chrétienté apostate, on retrouve ces choses-là qui sont des caractéristiques de Babylone, comme la prêtrise, l'adoration de la mère et de l'enfant, l'eau bénite même, le signe de la croix, la messe de ces gens-ci. On pensait que ce serait des choses chrétiennes, mais ça vient pas, ça vient de l'idolâtrie, la messe, puis sont toutes leurs origines dans Babel. Je me souviens, à un moment donné, je disais à mon père, j'ai dit, Marie est appelée la reine des cieux. Il dit, oui, mais j'ai dit, la reine des cieux existait avant Marie. Puis lui, il dit, ben non. Ben oui, j'ai dit, fait que là, je l'avais amené dans Jérémie pour lui montrer que les enfants d'Israël offraient de l'encens à la reine des cieux. Ça, c'était bien avant que Marie soit sur la terre. Donc, puis même avant Jérémie, il y avait la reine des cieux était là. Puis même le terme qu'on emploie, le souverain pontife, vient aussi de Babylone. Donc, cette idolâtrie-là est personnifiée dans ce nom-là de Babylone. Parce que ça, c'est la Babylone historique qui a commencé avec Nimrod, puis qui a continué. Mais on a la Babylone prophétique aussi. La Babylone prophétique, ben, Daniel, Ézéchiel, Jérémie nous en parlent à ce moment-là. C'est que Israël voulait faire comme les nations. Puis Israël, en voulant imiter les nations, ben, ils ont aussi se sont tournés vers les idoles des nations. Ils ont suivi l'exemple des nations qui étaient sous l'exemple de Babylone, avec les façons d'agir de Babylone. Puis Dieu les a livrés entre les mains de ces nations idolâtres. C'est un peu comme si Dieu avait dit, OK, vous voulez de l'idolâtrie, je vais vous envoyer dans le siège social de l'idolâtrie. Puis ils se sont ramassés à Babylone. Ils ont été amenés ben, en Assyrie, premièrement, les tribus du nord. Ensuite de ça, les deux tribus du sud ont été amenées à Babylone. C'est comme si Dieu voulait leur dire, OK, vous voulez des idoles, je vais vous mettre parmi les idoles. Puis, ils ont vraiment souffert à cause de l'idolâtrie qui a dominé sur eux. Le culte d'Astarté, Baal, il avait son origine dans Babylone. Puis, Babylone a dominé sur le monde. Hein. Puis, on sait que dans la statue de Daniel, on voit la tête en or qui était Nebuchadnezzar. C'est toi qui étais la tête en or de cette statue-là, mais il y a toute une statue là, avec des métaux qui diminuent en valeur à mesure qu'on descend dans la statue. Mais le fait que Nebuchadnezzar se soit converti, c'est une preuve que le salut de Dieu est accessible à tous. Même Nebuchadnezzar, qui est sa tête là, Daniel lui a dit, c'est toi qui es la tête de Babylone, c'est toi qui es la tête en or, c'est toi qui es la tête de cet empire-là. Puis on voit que Nebuchadnezzar était idolâtre, puis était centré sur lui-même, qui se prenait à la place de Dieu, mais Dieu l'a abaissé, jusqu'au point qu'il s'est reconnu coupable devant Dieu, puis il a reconnu que le Très-Haut règne au-dessus du règne des hommes. Puis Nebuchadnezzar a fait vraiment une belle profession à toute la terre connue de ce temps-là sur laquelle il régnait, puis il a reconnu que Dieu était au-dessus de lui. Donc, ça nous montre que le salut est accessible à tous. Dieu, comme il nous dit dans le Nouveau Testament, ne voulant pas Dieu est patient et ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Mais si on va dans Ésaïe au chapitre 13, on va voir que Dieu a prophétisé, Ésaïe a prophétisé la destruction de Babylone. Dans Ésaïe au chapitre 13, les versets 17 à 22. Ésaïe 13, les versets 17 à 22. Il nous dit ici, voici, j'excite contre eux les Mèdes, ça c'est contre Babylone. J'excite contre eux les Mèdes et les Perses. On sait que les Mèdes et les Perses ont conquis l'empire de Babylone. Il dit qu'ils ne font point cas de l'argent et qu'ils ne convoitent point l'or. De leurs arcs, ils abattront les jeunes gens et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Leur œil n'épargnera point les enfants. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée. Elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera point sa tente et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. Les animaux du désert y prendront leur gîte. Les hiboux rempliront ses maisons. Les autruches en feront leur demeure et les boucs y sauteront. Les chacals hurleront dans ses palais et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Son temps est près d'arriver et ses jours ne se prolongeront pas. Comme on voit dans la prophétie, là, la prophétie, elle va loin. La prophétie, elle regarde au loin. Il y a des accomplissements qui sont tout près, parce que pour vérifier l'authenticité des prophètes, il fallait que ce qu'ils avaient dit arrive. Si ce qu'ils avaient prophétisé n'arrivait pas, c'était des faux prophètes. Mais dans la prophétie, ça incluait un accomplissement proche, mais la prophétie, elle regarde toujours au loin pour un accomplissement plus loin. C'est sûr que Babylone a été conquis par les Mèdes et les Perses qui sont venus puis qui ont pris le royaume de Nebuchadnezzar, de son petit-fils, mais de Babylone a été conquise par les Mèdes et les Perses. Mais dans cette prophétie-là, on voit jusqu'à la fin, ce qu'on voit dans l'Apocalypse, ça va être la victoire finale, la destruction finale de Babylone, comme on a vu dans l'Apocalypse. À la fin. Puis même quand on continue dans Ésaïe au chapitre 14, on voit à un moment donné que on voit dans le verset 12 du chapitre 14, il dit: Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard et te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert et qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Donc, on voit ici, quand on regarde ce passage-là, ben, c'est Satan qui est en question ici, là. Puis, c'est lui qui est en arrière de cette idolâtrie-là. C'est lui qui est en arrière de Babylone. C'est lui qui est en arrière de cette lignée-là de Caïn qui ont été influencés, qui ne sont pas tournés vers Dieu. Mais si on ne se tourne pas vers Dieu, ben, nécessairement, on est avec du côté de Satan. Puis, on voit ici dans la prophétie que il va juger Satan aussi qui est en arrière. Puis, Babylone aussi va être détruite. Donc, ça, c'est pour la Babylone prophétique, mais on a aussi la Babylone mystique. Puis la Babylone mystique, ben, c'est ce qu'on a retrouvé, c'est ça qu'on a vu dans l'Apocalypse ici, là. Dans le chapitre 17, les versets 1 à 7, c'est la forme religieuse de Babylone. Donc ça, c'est la femme. La femme, comme il nous est dit dans l'Apocalypse au chapitre 17, c'est la femme qui est assise sur la bête. La forme religieuse. C'est représenté par la femme qui est assise comme une prostituée sur la bête. Mais la forme politique Ici, c'est la bête. Dans le chapitre 17, les versets 8 à 18 qu'on a lu, là, ça, c'est la forme politique, c'est la bête là, de la Babylone mystique. Mais on a aussi la forme commerciale de cette ville-là. Ça, c'est la ville de Babylone, mais dans le verset 18, dans le chapitre 18, excusez. Donc, les deux chapitres décrivent la forme finale de Babylone et sa destruction ultime. Les deux chapitres qu'on a lus dans Apocalypse 17 et Apocalypse 18. Donc, on a vu ces trois formes-là, la forme religieuse, la forme politique de Babylone, puis la forme commerciale de Babylone. Donc, c'est ça, les chapitres 17, 1 à 7, c'est la femme. Les chapitres 17, 8 à 18, c'est la bête. Puis le chapitre 18, c'est la ville. Donc, c'est quoi vraiment tout ça? C'est l'homme essayant d'atteindre l'utopie sans Dieu. C'est l'homme qui essaie d'être heureux, de trouver le bonheur, de trouver tout ce qu'il a besoin sans Dieu. C'est folie parce qu'on sait que Dieu est la source, est notre source. On existe, c'est lui qui nous tient en vie, c'est lui qui nous a créés, c'est de lui qu'on dépend. Quand on s'arrête à penser 2 minutes, comment on est tellement dépendant de Dieu sur la terre qu'il a créé. Il s'agit juste qu'il lui, il arrête de nous donner le souffle, puis on tombe à terre. On est vraiment dépendant, mais c'est vraiment une rébellion que, comme Satan avait dit à la femme dans le jardin, elle dit, c'est que Dieu sait que le jour où vous allez manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez être comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est comme si vous n'aurez plus besoin de lui, vous allez pouvoir vous arranger sans lui, vous allez pouvoir vivre sans lui, puis penser de réexister sans celui qui nous a créés, ben, ça c'est l'utopie de l'homme, sans d'être atteindre cette plénitude-là sans Dieu. Donc, ça c'est l'effort de l'homme. L'homme travaille à ça constamment. On voit aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, on essaie de régler tous les problèmes, mais sans Dieu. Il ne faut pas parler de Dieu, on enlève Dieu de toutes nos conversations, on ne recherche pas des solutions en lui. Donc, c'est l'homme qui essaie de régler tous ses problèmes sans Dieu. Puis on sait que déjà là, on voit que plus ça va, plus il y a des plus grands problèmes. En mondialisant, on arrive avec des problèmes mondiaux. Avant ça, on avait des problèmes dans notre petite communauté. Mais là, maintenant, en mondialisant, on arrive avec des problèmes colossaux qui sont à l'échelle de la planète, puis même à l'échelle de l'univers, parce que là, on est en train d'essayer de régler les changements climatiques, on est en train d'essayer de changer toutes les, dans le ciel, d'essayer de régler les problèmes. Imaginez-vous un homme qui est si petit sur la Terre, qui est si peu connaissant, même avec toute la science que Dieu nous a permis de connaître, combien on est limité par rapport à toute la grandeur de cet univers-là dans lequel on vit. Là. On a juste à sortir de l'atmosphère de la Terre, on n'est plus capable de vivre. Là. Donc, mais c'est l'homme vraiment qui essaye. Là. Donc, la femme, c'est de se faire une religion mondiale. Parce qu'on va être dans la société qu'on vit aujourd'hui, ils ne veulent plus que les gens donnent leur valeur à leurs enfants. C'est pour ça qu'on veut les enfants dans des garderies, on veut que les enfants soient élevés par la société. Puis on ne veut pas que les parents donnent leur valeur aux enfants, puis on ne veut surtout pas qu'ils leur donnent leur religion. Parce qu'à la vue de la société aujourd'hui, les problèmes sont à cause des différentes religions. Oui, c'est vrai, il y a des guerres de religions, mais on met Dieu dans le même paquet. Là. Les religions, c'est une confusion qui vient de Satan. Satan, lui, ça ne dérange pas n'importe quelle religion qu'on va avoir du moment qu'on reste dans l'idolâtrie, du moment qu'on ne se tourne pas vers Dieu qui nous a donné un sauveur. La bête, ben aussi, c'est ça, on veut se faire. Puis la religion mondiale, c'est l'œcuménisme. C'est ça qui est la religion mondiale, c'est l'œcuménisme qu'on voit aujourd'hui qui avance depuis les années 60. On voit que ça avance beaucoup, ça rejoint beaucoup l'œcuménisme de se joindre. Puis tout l'œcuménisme est basé sur l'amour. Hein. C'est pas grave, faut pas regarder la doctrine, il faut regarder à l'amour, il faut s'unir sur le principe de l'amour. Mais la bête, c'est le côté politique, c'est de se faire un gouvernement mondial pour achever la paix. Hein, si on réussit à avoir qu'un qui va diriger la Terre entière, on parle de la Terre comme un village, On parle d'une unité politique d'un homme, puis c'est sûr que la parole de Dieu nous dit qu'un jour, il y a un homme qui va prendre le contrôle de la terre, mais ça va être un homme de péché. Puis c'est donc un, peu importe la forme de gouvernement qu'on peut avoir, on s'aperçoit toujours que peu importe la forme de gouvernement qu'on peut avoir, ça va toujours à la déchéance. Pourquoi? Ce n'est pas le système qui est le problème, mais c'est ceux qui sont au contrôle du système. C'est à cause du fait que l'homme est un pécheur par nature. Donc, étant un pécheur, ben, ça finit toujours par être, comme quelqu'un disait auparavant, parlant de l'impérialisme et le communisme, il disait l'impérialisme, c'était l'exploitation de l'homme par l'homme. Puis le communiste, c'était le contraire. Mais le contraire vient au même parce que c'est l'homme qui profite de l'homme. Donc, ça revient au même. Mais la ville, quand, là, on a la femme, c'est la religion mondiale, le communiste. La bête, c'est un gouvernement mondial. Et on voit qu'on s'en va vers là. Et la ville, ben, c'est la commercialisation pour régler les problèmes économiques. Donc, ça, c'est les enjeux, hein. Si on a la même religion, si on a la même politique, le même gouvernement, si on a la même commercialisation, on va tous fonctionner ensemble à l'échelle de la planète, puis ça va régler les problèmes économiques. Donc, c'est important. Mais tout ça est en opposition à ce que Dieu a fait. On veut faire ça sans. C'est là le problème. C'est qu'on veut se passer de Dieu, on ne veut pas, comme les Juifs ont pu dire du Seigneur Jésus, on ne veut pas de cet homme pour régner sur nous. Donc, mais tout ça est en opposition de Dieu. Puis on revient un peu aux deux lignées, là, la lignée de Caïn dans la Genèse qu'on avait vue, parce que ces lignées-là ont continué, et la lignée de Seth, puis on les retrouve à la fin dans l'Apocalypse. C'est le début de l'histoire humaine. Mais le début de l'histoire humaine, il y a toujours eu sur la terre la division sur la terre, c'est ceux qui suivent le Seigneur, puis ceux qui ne suivent pas le Seigneur. C'est ça qui fait la division dans l'humanité, c'est ceux qui suivent le Seigneur, ceux qui ne suivent pas le Seigneur. Donc, dans ces deux lignées, on voit d'un côté, on voit Babylone, la ville, qu'on voit ici dans l'Apocalypse. On voit aussi la grande prostituée, mais on voit dans l'Apocalypse, on voit Babylone, la ville idolâtre, puis on voit aussi la Nouvelle Jérusalem de l'autre côté. Dans l'Apocalypse, on voit aussi la Nouvelle Jérusalem. Elle entre dans la bénédiction, mais la Babylone, la ville, voit sa destruction. L'épouse de Christ, on voit qu'on a l'épouse de Christ qu'on voit dans l'Apocalypse, mais on voit aussi la grande prostituée qui est en opposition. Dans ces deux lignées-là, la lignée de Caïn puis la lignée d'Abel. On voit aussi le Christ d'un côté, mais on voit aussi l'Antéchrist, où on voit la bête politique, c'est-à-dire. On voit le Christ, on voit la bête politique, celui qui va régner sur la terre, tandis que le Christ, c'est lui qui va régner sur la terre quand il va établir son règne. On a le Saint-Esprit, mais on a aussi l'Antéchrist, le faux prophète. De l'autre côté, on a d'un côté la puissance de Dieu, puis de l'autre côté, on a la puissance de Satan. Puis ces deux puissances-là vont s'affronter, mais on sait que quand ces deux puissances-là vont s'affronter, on sait déjà quelle est la puissance qui va surmonter, qui va enlever l'autre, qui va conquérir l'autre. C'est la puissance du Seigneur Jésus qui est exprimée, ou la puissance de Dieu qui est exprimée dans Daniel, dans la statue. Hein, et cette statue-là, à la fin, il y a une pierre qui vient sans l'aide d'aucune main, qui vient frapper la statue dans les pieds, puis toute la statue s'écroule, et c'est là toute l'effort, la puissance de Satan avec tous ceux qui auront suivi la lignée, qui auront suivi Satan dans sa rébellion, ils vont être détruits par le Seigneur Jésus-Christ, qui va venir pour arracher tous les scandales de la terre, pour tout le péché, qui va venir pourquoi? Pour établir son règne de paix et de justice. Le millénium, puis ainsi aussi, après ça, rentrer dans l'éternité. Donc, c'est ça qu'on voit dans ces choses-là. Mais on voit que, si on retourne dans l'Apocalypse au chapitre 17, au verset 5, on voit que sur son front était écrit un nom, Puis, ça nous dit au verset 5, il dit, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Donc, on voit que si on veut suivre le Seigneur, c'est sûr qu'on va rencontrer l'opposition du monde. Hein, parce que le monde, ils ne veulent pas entendre parler du Seigneur. Mais aussi, cette religion-là, apostate, ne veut pas entendre parler du Seigneur. Puis, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ vont être persécutés. Puis, mais ici, il nous parle d'une persécution, comme il dit ici, là, je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. On se rend compte de ça tout de suite au début avec Caïn. Hein? Pourquoi que Caïn a haï Abel? Puis pourquoi qu'il l'a tué? Ben, c'est parce que Caïn n'était pas agréable à Dieu, puis Abel, lui, l'était. Abel cherchait Dieu selon Dieu, tandis que Caïn ne voulait pas chercher Dieu selon Dieu. Dieu lui avait dit d'offrir de la bonne façon, mais il n'a pas voulu ça. Il a voulu faire à sa tête, il a voulu continuer dans cette rébellion-là de Satan. Donc, ça, mais depuis la Réforme, là, plusieurs théologiens qui ont identifié comme la Rome papale, cette femme-là ici, là, qui était vêtue de pourpre et d'écarlate, puis qui avait sur son front écrit un nom, un mystère, un nom, un mystère, Babylone la Grande. Mais c'est sûr que l'idolâtrie de Babylone se retrouve dans toutes les religions. C'est sûr que quand on regarde, nous autres, on est proche de la religion catholique, puis oui, le pape a quand même une grande autorité. Ici, se mêlant dans la politique, on sait que cette femme-là, elle est assise sur la bête écarlate, donc sur le pouvoir politique, sur la bête politique. Mais on l'a identifiée comme la Rome papale, mais l'idolâtrie de Babylone se retrouve dans toutes les religions, que ce soit le bouddhisme, le Confucius, l'islam, avec les rituels introduits qui ont venu dans la chrétienté apostate aussi. On voit toutes ces choses-là. Donc, c'est l'habitation de démons, puis un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux. Si on va comme dans le chapitre 18 au verset 2, il dit, il criait d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la Grande, elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux. Si on va comparer avec Matthieu 13, le Seigneur dans Matthieu 13, dans les paraboles du royaume, a parlé aussi de la même façon. Il a parlé d'un grain de sénevé. Si on va au verset 32, dans Matthieu 13, au verset 32, le Seigneur a parlé d'un grain de sénevé qui a été planté. Il dit, on peut lire le verset 31 aussi de Matthieu 13. Il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Puis ici, les oiseaux, dans la parole de Dieu, les oiseaux, ça fait jamais bon augure. Comme il est dit dans l'Apocalypse, de tout oiseau impur et odieux. C'est des doctrines de démons qui sont venues. Le royaume de Dieu a commencé comme une petite semence, mais aussitôt que l'homme organise, on sait que l'homme finit par organiser Dieu en dehors de son organisation. Puis quand il fait ça, ben, c'est un système qui est sans Dieu. C'est un système qui est décrit ici par la Babylone, qu'on voit la Babylone mystique l'Apocalypse. Donc, c'est le résidu de toute forme de religion laissée sur la terre après l'enlèvement de la vraie Église. Parce que la vraie Église va être enlevée, et ensuite, sur la terre, va demeurer cette religion apostate-là. Toute forme de religion, que ce soit même l'athéisme, puis l'occultisme, puis le spiritisme, toutes ces choses-là, ça va tout rester sur la terre. Puis, la parole de Dieu nous dit qu'il y aura une union qu'on appelle l'œcuménisme, qui va venir, puis qui va tous s'unir ensemble pour s'unir, pourquoi? S'unir contre Dieu, qui va trouver sa destinée dans la destruction ici qu'on voit. Donc, c'est l'œcuménisme qui va être détruit selon la direction de Dieu par le pouvoir politique afin que l'homme de péché prenne sa place pour être adoré comme Dieu. Donc, on voit ça que cette femme-là est assise sur la bête écarlate, mais finalement, on voit que cette bête politique-là ils vont haïr la prostituée, puis ils vont la détruire, ils vont manger ses chairs. D'accord? On va s'arrêter là pour ce soir. Il y a encore des choses à dire sur la Babylone. On va continuer la semaine prochaine, le Seigneur voulant. Je vais m'arrêter. C'est un bon point pour s'arrêter ici, là. Mais on va voir que, il y a une union entre cette forme religieuse-là et la forme politique. Mais c'est juste une union d'intérêt. Ce n'est pas une union solide. Puis la politique va finir par haïr cette bête religieuse-là, cette femme qui est assise sur la bête écarlate, qui va dévorer ses chairs. Parce que, à cause que c'est Dieu va permettre qu'il en soit ainsi. Donc, je m'arrête là, puis je vous donne la possibilité de pouvoir prendre votre micro si vous avez des questions, des commentaires que vous voulez émettre.
C'est ça, le général qui va être appelé l'ordre mondial.
Ouais, tout s'en va vers la mondialisation, que ce soit la religion ou la politique. Et on va le voir quand il y a la forme religieuse, la forme politique, puis la forme commerciale aussi, dans la ville qui est détruite. On verra la semaine prochaine, Seigneur voulant.
C'est proche, là, hein, c'est ça.
Ah oui, c'est sûr. On va s'approcher des choses. Hein.
Merci.
On voit aussi avec le détail des sept collines que c'est, ça semble être en Europe, avec surtout la bête religieuse, là. Mais on voit que les deux bêtes religieuses et bêtes politiques, ils vont être, ça va être un empire qui a déjà existé, l'empire romain.
C'est ça, on remonte jusqu'au début. La Bible, c'est un tout, là, puis on remonte jusqu'au début. Il y a des empires qui ont régné puis ils sont toujours connus en rapport avec Israël, qui était le peuple choisi de Dieu, là, pour amener le Messie, puis les Écritures. Mais on voit que c'est tout ce qui a été, qui a régné en dehors d'Israël, comme Babylone, remonte à Nimrod.
Gérald, dans ton exemple de Matthieu 13, 31, c'est en quoi ça a rapport avec Babylone?
C'est comme un système qui a commencé petit, mais en grandissant, il est devenu un grand arbre, puis les oiseaux sont venus loger dans ses branches. Puis quand on voit que les oiseaux, dans la parole de Dieu, le Seigneur est consistant dans ses exemples qu'il donne, puis les oiseaux figurent jamais comme des bonnes choses. C'est plutôt des esprits impurs ici qu'on voit, qui viennent loger dans ses branches. Puis quand la chrétienté est devenue une organisation, et on sait que ça s'est corrompu par toutes sortes de choses. Quand on voit comme au verset 31, mais on le voit aussi quand dans la première parabole, là, il dit un petit peu, une grande foule s'est enfermée, il leur parlait en parabole au verset 4 du chapitre 13, un semeur sorti pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Je trouve que c'est consistant que les oiseaux, ils viennent manger la semence. Puis c'est quoi? Quand le Seigneur l'explique, ben, c'est Satan qui vient enlever de leur cœur la semence qui a été mise dans leur cœur.
J'ai quand même de la misère à faire le lien parce qu'on dit ici, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé. C'est l'exemple du royaume de Dieu qui se développe jusqu'à être suffisamment grand pour même accueillir des oiseaux. Mais j'ai de la misère à faire le lien là, avec Babylone.
Oui, mais c'est parce que, comme il dit, on avait vu dans Babylone, là, qu'il dit au verset 2, il criait d'une voix forte, disant, dans le chapitre 18 de l'Apocalypse, il criait d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche. Puis, c'est sûr que comme on voit les paraboles dans Matthieu 13, là, ben, on voit que c'est une semence qui est mise, c'est un commencement, mais il y a toujours, c'est de l'opposition qu'on voit dans les premières paraboles. Les premières paraboles, ensuite de ça, on a le résultat de Dieu en dépit de l'opposition. Mais les premières paraboles, comme le semeur, il sème, mais l'ennemi vient pour enlever. Puis après ça, on a l'ivraie et le bon grain. Donc, le Seigneur met le bon grain, mais l'ennemi vient pour entraver en mettant l'ivraie. Ensuite de ça, on a le grain de sénevé qui est planté, mais l'ennemi vient en faisant une organisation humaine où tous les oiseaux viennent dans les branches. Puis ensuite, on a le levain qui est introduit dans 3 mesures de farine. Donc, c'est l'infiltration du mal dans ça. Donc, on voit toujours dans les premières paraboles que c'est l'œuvre de Dieu, mais on voit l'entrave de Satan. Puis dans les dernières paraboles, on voit que le Seigneur, on a parlé de ça quand on avait regardé les paraboles, on voit qu'en dépit des entraves de Satan, donc c'est consistant dans les premières paraboles que Satan essaie de nuire à l'œuvre du Seigneur, mais à la fin, le Seigneur finit par arriver quand même, en dépit de cela, il arrive avec le trésor caché qui nous parle d'Israël, la perle de grand prix qui nous parle de l'Église et le filet qui nous parle des nations. Donc les 3 divisions de l'humanité reconnues dans la parole de Dieu, c'est Israël, l'Église et les nations. Donc le Seigneur réussit à trouver, en dépit de toute l'entrave que Satan met à son œuvre, Dieu réussit quand même à la fin à avoir ce qu'il cherchait.
Okay, merci.
Nelson, t'avais-tu quelque chose?
Non, ben on voit comme ça part de loin. J'avais vraiment remarqué ça, moi, que la Babylone, ça partait de Genèse, là. J'ai jamais arrêté à ça. Mais je pense que, comme tu as parlé, on voit bien que ça, Babylone, la première fois que ça a été mentionné, là, on voit que c'est dans Genèse. On voit le système. À partir du. Quand le péché est rentré dans l'homme, on voit deux catégories de personnes. On voit les croyants. On voit ceux-là qui ne sont pas. Qui sont pas croyants. Ça passe. C'est le péché qui a emmené ça. Ça a emmené une division. Puis ça a subsisté encore jusqu'à aujourd'hui. Puis avec. Quand j'ai aimé, qu'est-ce que tu as partagé aussi que les sociétés aujourd'hui. De plus en plus, ils veulent plus qu'on parle de Dieu, puis ils veulent plus que les parents inculquent de croyances à leurs enfants dans leur société. Dans la société, on ne peut plus parler de Dieu. Puis quand tu mets Dieu de côté dans la société, mais on voit tout ce qui se passe actuellement. Ça va de plus en plus mal, puis il essaie de régler des problèmes, puis c'est d'autres problèmes qui arrivent, puis ça ne peut pas fonctionner sans Dieu, là.
Ouais.
Le Seigneur, ben, il va me dire en tant que, il va juger. Puis l'homme de péché qui s'en vient, la société d'aujourd'hui, mais qui apparaît, l'homme de péché, ils vont l'accueillir et vont être prêts. Ils vont dire, c'est lui qu'on veut. Et ça se prépare à long terme, ça se prépare pas depuis des années 50, c'est passé beaucoup de changements par rapport dans le monde.
Dans le
Ça
monde
continue.
religieux, dans le monde religieux, dans le monde politique, dans le monde commercial aussi.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est certain que quand on voit des grands thèmes, comme on voit ici dans l'Apocalypse, le thème de Babylone, c'est un grand thème dans la parole de Dieu. Mais les grands thèmes de la parole de Dieu commencent en embryo dans la Genèse. Comme on l'a dit, on peut les suivre tout au long de la Bible, puis à la fin, ils se retrouvent dans l'Apocalypse aussi, pour la consommation.
Intéressant qu'on trouve aussi dans Genèse, dans 3,15, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. L'inimitié, c'est ennemi, là, ça vient, c'est la même racine. On voit bien qu'ici, l'ennemi de Dieu, ben, c'est Satan. Puis cette inimitié-là, déjà au début, était déjà statué là, que ça durerait. Puis on voit, comme tu l'as bien souligné, jusqu'à la fin, c'est un combat perpétuel. On dit que Dieu s'est reposé, mais en réalité, il ne s'est pas reposé tant que ça depuis la création du monde avec l'œuvre du Seigneur Jésus, puis tout la direction qui fait, là, en tout cas, c'est pas ça. Pour moi, ça reste un petit mystère. On dit Dieu s'est reposé, mais il me semble que c'est pas reposé beaucoup encore.
Mais quand Dieu a fini, quand Dieu a terminé la création, il dit que là, Dieu se
Oui,
reposa
oui,
parce que la
oui,
création était terminée.
oui.
Et comme le Seigneur Jésus a dit, quand ils l'ont accusé d'avoir travaillé le jour du sabbat, il a dit, jusqu'à ce jour, Dieu agit, puis mon Père agit, puis moi aussi j'agis. C'est que, aussitôt que quand tout était bon dans la création, c'est un repos, pas parce que Dieu était fatigué, mais parce que c'est un repos de complétion. C'est que tout étant accompli, tout était. Le Seigneur aussi, sur la croix, quand il a dit tout est accompli, il a baissé la tête, puis il s'est reposé aussi, là, il a rendu l'esprit. Mais aussitôt que le péché est entré dans le monde, Dieu s'est remis à l'œuvre. Puis le repos, ben, ça va être quand on va être avec lui, quand il va avoir éliminé le mal, puis on va rentrer dans l'éternité avec lui. Là, ça va être le repos éternel.
Comme le cantique dit, quel repos,
Quel repos, quel
quel
céleste repos.
céleste repos.
Ouais.
Merci, merci Gérard.
Quand on regarde Genèse 3,15 aussi, Michel a mentionné, on peut voir la venue du Seigneur Jésus-Christ. Celle-ci t'écrasera la tête. C'est le Seigneur qui va écraser la tête de Satan, l'Empire. On voit, tu lui blesseras le talon, mais on voit aussi que le Seigneur va souffrir.
C'est ça, ouais. On voit cette inimitié-là aussi dans l'Apocalypse au chapitre 12, quand la femme qui donne naissance, c'est Israël qui donne naissance à un enfant mort qui va régner avec une verge de fer. Puis Satan, il s'en prend à l'enfant, mais l'enfant est enlevé au ciel. Ensuite de ça, il s'en prend à la femme, ensuite la femme. Donc l'inimitié, on la voit là aussi, là. Puis on sait que dans la tribulation, Satan va poursuivre la femme pour essayer, la femme qui est Israël, pour essayer de la détruire, elle va s'en aller au désert, le Seigneur l'amène au désert pour la protéger pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. On est arrivé à notre but, il est 9 h, ben 9 h pour moi, 8 h pour vous, là. Mais c'est ça, on va s'arrêter là pour prier, parce que de ça, ceux qui doivent partir pourront partir. Seigneur notre Dieu, on te remercie que dans ta parole, tu nous révèles tout ton plan, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Tu nous fais connaître ces choses. On te remercie, Seigneur. Connaissant ces choses, nous, on ne veut pas être indépendants de toi. On ne veut pas se passer de toi, Seigneur. On veut te remercier pour le salut parfait que tu nous as accompli et que tu nous as offert dans la personne de ton Fils. Seigneur, on t'a cherché selon ce que tu nous as donné, Seigneur, selon la lumière que tu nous as donnée. Ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Seigneur, on ne veut pas se réfugier dans quelques pensées ou religions ou formes de religion des hommes, mais on se confie vraiment dans ton plan de rédemption, accompli parfaitement dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous de rester dans la simplicité de ta parole et de ne pas se laisser même organiser, Seigneur, mais de rester. On sait que l'Église est un organisme vivant. Que toi, Seigneur, tu as dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, ce n'est pas l'homme qui va construire cette Église-là, mais c'est toi, Seigneur, qui la construis toi-même, qui va la préserver. Puis, à la fin, cette Église apostate qui n'a pas suivi tes voies va être détruite, Seigneur, avec la bête politique, puis aussi la forme commerciale. On te remercie pour ces choses. On t'en rend grâce. Merci pour tous ceux qui sont là. On te demande ta bénédiction sur tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
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 Amen. Amen.